L'amphi, l'émission étudiante.
Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Et bienvenue pour cette ultime et dernière émission de l'Amphi, en ce qui me concerne tout du moins. Après 8 mois de quotidienne où je vous ai tenu au courant de l'actualité de l'université et de sujets qui me tenaient à cœur, je dois désormais rendre les armes. Mais pas sans une dernière émission pour laquelle j'ai invité chroniqueurs, amis et bénévoles à participer pour, une dernière fois, vous partager à vous, chers auditeurs et auditrices, des conseils culturels divers et variés. Livres, BD, cinéma, musique, jeux vidéo, sites internet, artistes, sorties, l'objectif de cette émission est de vous faire découvrir tout un tas de trucs en l'espace de 55 minutes. Je remercie donc tous ceux qui sont présents au studio aujourd'hui, qui ont accepté de participer à cette dernière de l'Amphi. Salut à tous.
Salut.
Alors nous avons Léa, Clémentine, Merlin, Julie, Ismaël, Nolwenn, Adèle, Corinne, Thomas, Baptiste et Geoffrey. Donc ça fait bien du monde, merci vraiment à tous d'être venus pour nous proposer quelque chose. Et bien c'est parti sans plus attendre pour cette dernière de l'Amphi.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fou et plus on s'emmerde.
Eh bien Adèle et Léa, vous êtes installés au micro, donc vous pouvez commencer. Tiens Adèle.
Ça marche, super. C'est parti.
Adèle, ancienne de l'Amphi évidemment. Hein.
Ouais, très heureuse d'être là d'ailleurs pour ta dernière et aussi égoïstement de revenir faire une chronique, j'avoue. J'ai pris plaisir à la préparer.
C'est compréhensible.
Donc du coup aujourd'hui j'aimerais vous parler de cinéma et plus particulièrement de cinéma d'animation. En fait il y a 2 ans quand j'étais à Radio Alpa, il y a un soir je suis allée au cinéma voir un film. Bon, jusqu'ici rien d'anormal, j'y allais presque tous les soirs. En même temps les tickets gratuits c'était pas mal. Bref, je m'égare. Ce qui a changé de l'ordinaire ce soir-là, c'est le film que je suis allée voir. Ce film, c'était Mad God de Phil Tippett. Alors, c'est pas de ce film-là exactement dont je vais vous parler, mais je suis obligée d'en parler pour que vous compreniez où je vais en venir ensuite. Promis, je vais faire court. Ce film, il parle d'un homme, non, de l'apocalypse. Enfin bref, c'est pas très clair. On peut le résumer comme une vraie descente aux enfers, de manière littérale et figurée. Les monstres sont partout et pourtant on les avait vus nulle part ailleurs avant, tellement ils sont étranges et cauchemardesques. Le scénario nous perd et nous récupère toutes les 2 secondes et les plans sont aussi cauchemardesques que magistrales. J'ai failli quitter le cinéma avant la fin de la séance, ce que je ne fais jamais. Et pourtant, c'est quand même le meilleur film que j'ai vu ces dernières années. Avec la loi de Téhéran de Saïd Roustaï, mais là encore, je m'égare. Donc je reviens à mes oignons. Pourquoi un tel paradoxe, me direz-vous? Eh bien parce que tout est animé en stop motion et que ça ressemble pas à Wallace et Gromit. Et ça c'est très fort. J'adore Wallace et Gromit, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce film m'a tapoté sur l'épaule et m'a dit « Au fait, un chef-d'œuvre cinématographique, c'est ça. » Ce film, c'est un vrai bijou créatif. En même temps, le gars a bossé dessus pendant 10 ans, donc bon, ça s'explique. Depuis que je l'ai vu, j'étais à la recherche d'un autre film qui me blufferait de la même manière et qui me ferait changer ma vision du cinéma en me disant « Ouais, ça peut aussi être ça le cinéma ». Et j'avoue que c'est dans le cinéma d'animation que j'ai retrouvé ce sentiment. Probablement car c'est l'art de tous les possibles, celui où toutes les créations les plus étranges peuvent prendre vie. Le problème, c'est qu'il y a 3 films qui sont sortis du lot quand j'ai réfléchi à cette chronique. Donc je vous propose de laisser le choix à notre cher animateur Charlie de choisir la chronique qu'il souhaite, vu que c'est son émission quand même.
En plus, c'est la dernière.
Charlie, tu aimes la science-fiction des années 90, la science-fiction où les robots contrôlent le monde, ou alors la science-fiction... Mais en fait non, c'est un animé... Ah non, c'est un film de vampire. Ou alors, attends, c'est un film de cow-boy.
Ok, le dernier m'intrigue.
Ok, je savais que c'était celui que t'allais choisir. Eh bien, figure-toi que c'est ce qui m'a attiré aussi à regarder ce film, Vampire Hunter D Bloodlust, de Yoshiaki Kawajiri. J'ai réussi à dire son nom. Déjà, avec un nom pareil, ça allait forcément être quelque chose. Le film a un nom à rallonge incroyable. Alors, de quoi ça parle? Bah, d'un chasseur de vampires, comme l'avaient deviné les plus bilingues de nos auditeurs. Mais dans le futur. On ne sait pas exactement quand, mais dans très 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 longtemps. En fait, imaginez un monde assez baroque, gothique, mais avec parfois des formes de technologie hyper poussées. C'est pas sans rappeler Lovecraft, évidemment, avec un mélange de très ancien et de très futuriste. Le plot, c'est que Charlotte Elborn, une jeune femme somme toute très jolie, s'est fait enlever par un vampire, et pas n'importe lequel, Meyer Link, l'un des plus puissants et violents d'entre eux. Et pour la ramener à la Casbah, son père et son frère engagent d'un côté une joyeuse famille de mercenaires où je demande la sœur adoptive Leila, le frère très faible mais doué de dons parapsychiques Grove, le frère aîné qui tire très bien à l'arc Borgoff, le frère à qui on a donné des couteaux beaucoup trop tôt, Kyle, et le frère gros caillou qui tape fort, Nolt. Et de l'autre côté, ils engagent aussi la lettre. Et en fait, ça vient de son espèce, les vampires, des mi-vampires, mi-humains. Ouais, c'est un peu spécial. Lui, sa vie, c'est pas le fun. Hein. Il s'est fait rejeter de partout parce que, évidemment, il est comme personne. Et c'est un mystérieux solitaire par excellence. Les deux équipes se lancent donc à la poursuite du vampire très très méchant. Mais est-ce qu'il est vraiment très très méchant? Est-ce que c'est pas un petit peu plus compliqué que ça? Évidemment que c'est plus compliqué que ça, sinon ce serait pas marrant. Et surtout, absolument génial. Alors pourquoi un tel mélange de genres, comme je disais au début? Eh bien parce que, pourquoi pas? Ici, le réalisateur Yoshiaki Kawajiri nous ballotte entre film de vampire à la Dracula de Coppola, film de science-fiction à la Blade Runner, et même western avec ce vampire chasseur de primes. On a même le droit à une scène de saloon pas piquée des hannetons. L'esthétisme du film est vraiment particulier, une sorte d'animé très poétique, romantique. On dit merci à Yoshitaka Amano, l'artiste derrière le design du personnage principal. Le scénario est hyper riche et les hommes si séduisants. Franchement les meufs, si vous en pouvez plus de voir votre copain en survêt sur le canapé avec une bière dans une main, la télécommande dans l'autre, regardez Vampire Hunter D Bloodlust. C'est aussi savoureux que de voir Damon Salvatore torse nu. Et wow. Dieu sait que c'est savoureux. Trêve de plaisanterie, ce film est un petit bijou oublié et le plus beau, c'est que vous pouvez le trouver gratuitement sur YouTube. Eh oui. Vous faites gaffe, Bloodlust, c'est le 2, hein, pas le premier film, parce qu'il y en a eu un premier, mais apparemment il est beaucoup moins ouf. Bref, c'était Adèle, je suis ravie d'être venue pour la dernière de Charlie dans l'amphi, en espérant que ma chronique vous a plu et qu'elle vous aura donné envie d'être curieux.
Eh bien, merci Adèle pour ton travail de dingue qui a fait peur à tout le monde dans le studio. Adèle, la seule qui écrit 3 chroniques en sachant qu'elle ne pourra en dire qu'une seule.
Mais ouais, mais ça m'avait manqué en vrai.
Ah bah je comprends.
Et j'arrivais pas à choisir.
Je sens déjà que ça a manqué moi de toute façon. Donc ouais. Je comprends tout à fait Adèle. Eh bien écoutez, sans plus attendre, je vois que le temps file beaucoup plus vite que ce que je pensais.
J'ai été longue.
Léa, je t'en prie, c'est à ton tour.
Bah ouais, du coup j'ai passé après Adèle. Bon bah excusez de la.
Excusez du peu.
Voilà.
Ah non, tu vas être incroyable.
Première chronique, hein, donc pardonnez-moi, mais voilà, je voulais vous parler d'une série animée qui me tient vraiment à cœur. C'est vraiment ma série animée préférée de tous les temps et que j'estime vraiment être un chef-d'œuvre de l'animation jeunesse. Et je vais vous parler évidemment de Avatar, le dernier maître de l'air. Donc ça ne pas confondre avec les films au grand bonhomme bleu, hein. Avatar c'est une série d'animation américaine produite par Nickelodeon et diffusée pour la première fois en 2005, c'était il y a 20 ans, ça commence à dater et je suis vieille. Alors de quoi ça parle? L'histoire se déroule dans un univers fortement inspiré par la culture et le folklore de l'Asie orientale, où le monde est divisé en 4 civilisations capables de maîtriser un élément. Donc on a la tribu de l'eau, le royaume de la terre, les nomades de l'air et la nation du feu. Sauf qu'un jour, la Nation du Feu décide d'attaquer les autres peuples pour conquérir la planète. Seul l'Avatar, le maître des 4 éléments et pont entre les peuples, peut permettre de mettre fin à la guerre. Sauf qu'au moment où le monde a besoin de lui, il disparaît. 100 ans plus tard, la Nation du Feu continue de faire des ravages et 2 membres de la tribu de l'eau du Sud, Katara et Sokka, donc un frère et une sœur, retrouvent l'Avatar coincé dans un iceberg. Problème, c'est un enfant de 12 ans. Aang, au dernier représentant de son peuple, les nomades de l'air, et un moine pacifiste. C'est pourtant sur ses épaules que le destin du monde repose. Aang s'engage alors dans un long périple, accompagné de ses 2 nouveaux compagnons, pour apprendre à maîtriser les éléments et restaurer l'équilibre du monde. Alors pourquoi c'est bien ? La série Avatar a beau être destinée à la jeunesse, elle ne prend pas ses spectateurs pour des idiots. C'est une histoire extrêmement bien ficelée, avec des personnages ayant une réelle profondeur et un réel développement au fil des saisons. Les combats sont chorégraphiés magnifiquement, basés sur de vrais mouvements d'arts martiaux. Et surtout, elle traite avec une grande justesse des sujets très adultes. On parle de guerre, d'écologie, de spiritualité, des familles dysfonctionnelles, de la vengeance, du génocide et du deuil.
C'est pour les enfants. Hein.
C'est pour les enfants. Donc voilà, elle traite...
J'ai perdu ta ligne.
Oui, j'ai perdu ma ligne. Néanmoins, la série garde l'humour et la légèreté d'un dessin animé pour enfants, car je rappelle, évidemment, c'est un dessin animé pour enfants. Mais finalement, tous les âges peuvent en profiter, et sans honte. En fait, elle me fait un peu l'effet d'un oignon. On enlève une couche et il y a encore quelque chose en dessous. C'est pour ça que c'est formidable. Donc voilà, si ça vous intéresse, la série est sur Netflix. Et si comment vous êtes tombé amoureux de l'univers, il existe une autre série animée, La Légende de Korra, avec un nouvel avatar. Normalement, vous pouvez la trouver sur Hoku, mais elle n'est plus disponible. Donc vous allez devoir chercher. Il y a également des BD et des romans, mais là, je ne pourrais pas tout énumérer. Et vous trouverez aussi un film en live action que je ne vous recommande absolument pas. Et Netflix a aussi tenté de faire une adaptation récemment, mais qui n'est pas extraordinaire non plus. Donc voilà, contentez-vous de la série animée Avatar.
Ça marche. Voilà. Merci beaucoup Léa. Eh bien écoute, Ismaël, je t'invite à prendre place. J'aimerais que ce soit ton tour à présent. Tu nous parles d'un groupe de musique aujourd'hui pour changer un peu de tes chroniques philo habituelles.
Non, je vais vous parler de Cowboy Bebop.
C'est ça.
Une série d'animation japonaise.
Ah oui, d'accord, oui, ok. C'est pas un groupe de musique, autant pour
non.
moi. Ok.
Qui a été réalisé par Shinichiro Watanabe et le studio d'animation Sunrise et qui a été diffusé entre octobre 1998 et avril 1999. Donc le synopsis, il est assez simple. On est en 2071, l'humanité a colonisé l'espace. Quatre chasseurs de primes qui s'appellent Spike, Jet, Faye et Ed forment un groupe et explorent l'espace à la recherche de bandits dont la tête est mise à prix. Donc on pourrait se dire que ce synopsis, c'est celui d'un space opéra assez classique. Voyage spatial, description des planètes, civilisation intergalactique, culture extraterrestre, etc. etc. Mais Cowboy Bebop, c'est un peu plus que ça. Déjà la narration. Même après avoir regardé les 26 épisodes et fait un petit tour sur le wiki de la série, on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose en fait sur les personnages et on a l'impression d'avoir juste vu un court moment de leur existence, d'en avoir compris quelques parties, mais que la grande majorité reste mystérieuse, qui donne déjà une ambiance assez particulière et fascinante à la série. Un autre truc qui nous frappe dans Cowboy Bebop, c'est le soin apporté à la qualité de l'ambiance sonore, en particulier pour la bande-son. Elle est composée et interprétée par un groupe japonais formé exprès pour l'occasion, qui s'appelle Seat Belts, et la compositrice Yoko Kano. Une grande qualité qu'ils ont, c'est de ne pas seulement être les morceaux de la série Cowboy Bebop, entre guillemets, mais vraiment des compositions qui ont intérêt en elles-mêmes et qu'on peut très bien d'ailleurs écouter et considérer sans avoir vu la série. Par exemple, le morceau intitulé Rush, qui est une partie de la bande-son du premier épisode. Si on l'analyse un peu, c'est un morceau de bop, un style de jazz qui utilise souvent des groupes assez larges d'instrumentistes, qu'on reconnaît par les longues et complexes phrases mélodiques de cuivre, ainsi que le tempo assez rapide battu à la cymbal ride. Dans ce morceau-là en particulier, on retient surtout vraiment les phrases de cuivre et les breaks très impressionnants, ainsi que la dimension presque orchestrale. Et donc c'est autant de choses qu'on ne s'attend pas forcément à retrouver dans la bande-son d'une série. C'est aussi impossible de parler de Cowboy Bebop sans parler de la photographie incroyable de la série. Donc les différents décors sont toujours très bien travaillés, particulièrement en lien avec l'aspect du space opéra qui met en scène des planètes et des cultures inconnues. On peut aussi voir la série défiler entre, on peut ainsi voir la série défiler entre un décor de l'Ouest américain de la fin du 19e siècle, une mégapole asiatique des années 2010, un souk du Maghreb pendant la colonisation française, avec à chaque fois des passages dans le vaisseau de l'équipage, le Bebop, qui a lui aussi une esthétique sonore et visuelle très travaillée. Donc c'est une série qui est assez courte, de 26 épisodes, qui sont tous assez accessibles sur Netflix. N'hésitez pas aussi à chercher sur Internet quelques screenshots de la série qui permettent un peu de voir la beauté de l'image et des décors. Et comme c'était ma dernière chronique, je voulais faire 2-3 dédicaces. Déjà, dédicace au nouveau groupe mondial et surtout à Charlie. Merci pour cette année parce que j'ai adoré passer dans l'émission.
Eh ben, merci beaucoup Ismaël parce que moi j'ai adoré tes chroniques. Vraiment,
merci.
C'était toujours un plaisir de les lire et de les écouter. Donc merci beaucoup pour tout le travail que tu as fait dans cette émission parce que je sais que c'était des chroniques qui demandaient du temps à préparer.
Oui,
il y avait beaucoup de boulot derrière, ça se voyait. Donc merci beaucoup. Et merci pour cette chronique sur Cowboy Bebop, parce que c'était une série en plus, maintenant que je me rappelle, que j'hésitais à regarder, donc je vais peut-être aller y jeter un coup d'œil, effectivement.
Vraiment, faut aller la voir.
Et bien, on va faire une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour les cinéastes, et on va donc écouter Rush, donc, qui est la BO de Cowboy Bebop, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça.
Et ensuite, on se retrouvera avec Thomas. retour dans l'amphi pour la suite de cette dernière émission où, avec toute une équipe de chroniqueurs et d'invités, on vous partage des références culturelles diverses et variées. Et on continue donc avec Thomas de la Percée de l'Histoire.
Bonjour.
Salut Thomas.
Ça va ?
Ça va bien et toi ?
Triste, bah, abattu ouais. Même.
Bah, je comprends.
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on va devenir ?
Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va écouter à 19h à la radio maintenant ? Bah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
Oui, bah, moi je sais, ça va être « Je vais sauter d'un pont
bah. ».
Point MP4.
Je comprends, c'est une réaction saine. Vas-y, on t'écoute pour ta chronique.
Alors, un petit jeu PS1.
Ouf.
Attention.
Ça date.
Que j'ai fait il y a très longtemps, qui s'appelle D. Il s'appelle juste D.
D'accord. Ça s'appelle comment ?
D.
D'accord, mais ça s'appelle comment ?
D.
D'accord. Okay.
C'est juste la lettre, en fait, si tu veux. Et en fait, ce jeu a été fait par Kenji Eno. Et donc, dans sa version japonaise, Dino Shokutaku, qui a été développée en 97. Et alors, de quoi ça parle ? L'action commence en 97. Le joueur incarne Laura Harris, fille de Richter Harris, un médecin renommé qui dirige un hôpital à la périphérie de Los Angeles. Alors qu'elle se retrouve à San Francisco, Laura apprend que son père a été pris de folie meurtrière. Et, après avoir tué de nombreuses personnes, s'est barricadé à l'intérieur de l'hôpital avec plusieurs otages. Laura se précipite sur place en espérant pouvoir calmer la situation. Une fois à l'intérieur de l'établissement, Laura est transportée dans un château étrange. Elle explore les lieux jusqu'à retrouver son père, comprendre les raisons qui l'ont menée à cette soif de sang et décider de leur destin à tous les deux. Donc voilà, ça mêle mi-horreur, mi-recherche, pardon. C'était super. Et pour vous dire, à l'époque, le jeu comportait 2 CD, non pas un, mais deux. Truc de dingue.
D'où et le sur... dé, du coup.
Je sais pas. Mais en tout cas, il s'appelle comme ça. Et voilà, donc ça mêle horreur, aventure, survivant, tout ça. Et ce qui était pas mal pour l'époque, c'est que le jeu est fait entièrement à la première personne. On le voit dans les yeux de Laura et on se déplace comme si on était Laura. Donc c'est super si jamais vous avez l'occasion de voir ou d'y jouer, qui sait. Je recommande parce que c'est sympa. C'est sympa.
Merci pour cette référence jeu vidéo un peu de niche. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Merci beaucoup.
C'est vrai que c'est de niche. Et j'aimerais faire comme Ismaël, faire une petite dédicace à Charlie.
Oh.
Parce que Adèle, c'était super. Mais Charlie. Charlie. Avec un grand C.
C'est pas sympa pour Adèle, mais je prends. Je prends.
Charismatique. Merci beaucoup d'avoir fait cette émission. On a pu se voir tous les mardis soirs.
Tout à fait.
Donc c'était super. Et plus, il y a affinité parce qu'on a fait quelques émissions ensemble. Et c'était trop cool.
Mmh. À quand beaucoup. La prochaine de la Percée de l'Histoire ?
La semaine prochaine.
Ok, bah, ça marche, c'est super. On passe à présent à Corinne. Bonjour. Bonsoir. Corinne.
Alors, oui, bonjour. Voilà. Bonsoir Charlie.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, de quoi tu nous parles ?
Alors, d'abord Charlie, tu sais que je t'ai croisé quasiment chaque semaine depuis ton arrivée à Radio Alpa et mon retour sur Radio Alpa.
C'est vrai.
C'est important, j'ai toujours eu plaisir à te croiser et j'ai fait une petite chronique pour te saluer Charlie. Toi qui as su animer C'est l'amphi avec un grand talent, parce que j'ai écouté ton émission, pas toutes, mais j'ai écouté ton émission. Tu as donné la parole aux plus jeunes, voire même aux très jeunes, hein, je pense à Merlin notamment, et à tant aussi. D'acteurs qui font du Mans une ville qui ne meurt pas. Alors chaque jour, tu as su te renouveler, et ça franchement, chapeau. Parce que je sais combien il est difficile de construire une émission qui... avec du contenu, et tu as toujours réussi à franchement faire des choses super. Alors, t'as vraiment réussi à donner la parole à tous ceux qui avaient vraiment des choses à dire, à raconter. Et on l'a déjà entendu ce soir. Alors, aujourd'hui, Charlie, je vais parler de toi. J'ai cherché ce que j'allais pouvoir inventer comme chronique et j'ai fait très simple. Je vais parler de toi, Charlie, ou plutôt de ton prénom qui t'emmènera loin. J'en suis sûre. Et grâce à mes petites recherches, je vais te prédire un peu de ton avenir.
C'est parti.
Alors tu t'appelles Charlie. Un prénom porteur de sens qui a une longue histoire puisqu'il est dérivé du prénom Charles, bien sûr. Un prénom qui existe depuis la nuit des temps, porté par de nombreux personnages historiques en Occident, beaucoup de rois. Et chose assez rare, il est porté dans absolument tous les pays d'Europe, j'ai vérifié. Hein. Alors, il y a des traductions, mais on reconnaît bien ce nom-là. Et bien sûr, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et il y a aussi la traduction de Charles, Charlie, au Japon, c'est Charuru. C'est un prénom quasi universel. Alors, que signifie-t-il? Je suis sûre que vous êtes très curieux de savoir ce que signifie Charlie. Alors, plusieurs sens lui sont donnés, mais j'en ai retenu un qui m'a plu. C'est très subjectif, ça veut dire « homme libre ». Alors, on dit que le prénom peut façonner la personnalité. Moi, j'y crois un peu. Alors, j'ai donc recherché et relevé que Charlie est un homme charmant et plein d'entrain, doté d'un sens de l'humour pétillant et d'une grande vivacité d'esprit. J'ai pu le constater. Tu serais aussi, Charlie, doué d'une grande intelligence et d'une curiosité insatiable. Ça, c'est vérifié aussi. On s'en est rendu compte au travers de tes émissions, bien sûr. Alors, tu aimes aussi plonger ton nez dans les écrits pour apprendre de nouvelles choses. Tu es considéré comme un être profondément empathique et sensible. Et il est dit aussi qu'on peut compter sur toi et que ta présence est réconfortante. Ta générosité et ta bienveillance font de toi un ami fidèle. Autre détail intéressant, tu serais constamment en quête d'aventures et d'expériences nouvelles en explorant de nouveaux horizons pour relever de nouveaux défis. Je n'ai retenu que les choses significatives. Je ne parlerai pas de la vie sentimentale des Charlie. Désolée, je n'ai pas
privé,
le temps.
Ça.
C'est peut-être pas aujourd'hui le plus important. Alors calme, posé, volontaire, tu te donnes les moyens pour atteindre les buts que tu te fixes. Avec tout ça, comment ne pas réussir? Alors je vais vous citer quand même quelques Charlie célèbres. En tant que Charles, ils sont innombrables, donc je ne vais pas les citer tous. Alors je me concentre sur notre époque. Alors il y a bien sûr Charlie Brown des Peanuts, qui a donné son nom au journal Charlie de François Cavanna, mais un peu plus tard à Charlie Hebdo. Ne l'oublions pas. Très important. Il y a aussi le Charlie de la chocolaterie. Et là, peut-être que je vais vous apprendre quelque chose. Le Charlie de la chocolaterie de Roald Dahl. Il y a le petit visuel de l'émission de C'est l'amphi. Il y a un petit bonhomme. Alors moi, je crois que c'est un des personnages de Charlie et la chocolaterie.
C'est vrai qu'il ressemble à Willy Wonka.
Tu vois? Donc voilà, donc c'est Charlie chocolaterie, donc ton dessin qui est super hein, et ton visuel, ça m'a fait penser à ça. Il y a bien sûr Charlie Chaplin. Charlie Sheen, bon l'acteur, hein, et surtout de grands musiciens de jazz, il y a Charlie Parker, Charlie Haden et Charlie Winston, un chanteur, et le Charlie Watts des Rolling Stones. Et surtout, vous connaissez tous ce Charlie-là, une série de livres née en 1987, avant Charlie, et qui enthousiasme toujours autant. Ce sont les albums sur lesquels des millions d'enfants et d'adultes se sont penchés. C'est « Où est Charlie ?» de Martin Hanford. 50 millions d'exemplaires vendus dans 40 pays et dans 30 langues. C'est quand même, je pense, un des livres les plus connus au monde pour enfants, après Le Petit Prince. Alors moi, je trouve que tu lui ressembles un petit peu, Charlie. Alors, bon, je vais terminer ma chronique, mais bon, un petit peu spécial, je la referai plus jamais. Pour conclure, j'ajouterais qu'il ne faut pas oublier qu'en 2016, on s'est tous presque appelés Charlie. C'est quand même aussi très important. Et à ma connaissance, il n'y a pas de Charlie célèbre dans l'Hexagone. Alors, j'espère vraiment que ce sera toi.
Eh bien, merci beaucoup, Corinne, pour cette chronique sur moi, moi, moi. Merci beaucoup Corinne. On passe à la chronique. Oh, merci beaucoup. Ouais, c'est gentil. On passe à la chronique suivante. Eh bien, écoute, Baptiste est au micro, donc on t'écoute tout de suite, Baptiste.
Alors ça va être beaucoup moins poétique. Je l'avoue. Moi, je vais vous parler d'un sport qui est, je pense, peu connu et pourtant il est pratiqué dans 28 pays. Donc c'est que ça existe quand même assez bien. Alors le club de Paris précise que c'est un croisement entre le handball, l'escrime et le rugby. Alors, il va falloir que j'explique un petit peu plus. Tout démarre avec un film qui a lieu en 1989, Le sang des héros, qui a été produit par David Webb Peoples. C'est un film dystopique qui se passe dans un désert infini. Des équipes, appelées des juggers, vont de village en village pour se battre au jeu du même nom, afin de survivre tout simplement. Le but du jeu étant d'arriver à la Ligue, une sorte de gladiateur, d'un futur dystopique dont on n'a pas d'année. Et le but du jeu est vraiment d'arriver à la ligue finale professionnelle. Et à l'image des gladiateurs, on se retrouve face à des riches qui vont être là pour s'amuser. Alors, rien à voir cependant avec la cruauté et la brutalité. La brutalité du sport dans le jeu, parce que du sport dans le jeu, du sport dans le film, pardon. Tout simplement parce que dans le film, il n'y a pas de règles, c'est-à-dire qu'on a le droit de blesser, de casser, de faire du mal à ses adversaires. Mais en 1992, c'est-à-dire 3 ans après, un petit groupe de fans allemands se disent « ce serait sympa d'en faire un vrai sport ». Alors ça a demandé plusieurs tentatives pour adapter des règles, pour réussir à faire un jeu en toute sécurité, parce que je vais vous le développer un petit peu plus par la suite. En fait, on est face à deux équipes qui sont armées.
Ah oui.
Alors, quand je parle d'armes, effectivement, c'est pas vraiment des vraies armes. On parle de pompe-fen, c'est des armes en mousse, rembourrées. Tout est codé, tout est mesuré. On a les double épées, on a des stabs, où on n'a pas le droit de faire des coups d'estoc, c'est-à-dire de pointer. C'est des sortes de grands bâtons de mousse. On a ce qui s'appelle des Q-tips, qui sont deux embouts de 60 cm de mousse reliés par un manche de 80 cm. On a des épées longues, des épées et des boucliers. Et enfin, le dernier qui s'appelle une chaîne. Une chaîne, rien à voir avec les chaînes de vélo ou quoi que ce soit. On a 3 mètres de corde avec au bout une balle de 20 cm qui apporte une petite spécificité lorsqu'on le joue. Pour vous imaginer un petit peu plus comment se pratique ce sport, en fait, on a un octogone de 40 mètres de large par 20 mètres de longueur, ou l'inverse plutôt, avec les coins coupés à 5 mètres. Au milieu, on a une balle appelée le crâne ou le jug, en référence au film. Et de chaque côté, à 2 mètres des lignes de départ, on a un but ou un embut ou un puits. Et le but du jeu est de prendre cette balle et de l'amener au but adverse, c'est-à-dire de l'autre côté. Alors, les équipes sont constituées de 5 joueurs. On a ce qui s'appelle un quick, donc un coureur, qui lui n'est pas armé. C'est le seul joueur qui peut prendre le jug ou le crâne ou la balle pour l'amener de l'autre côté. C'est donc le seul qui est capable de marquer le point. Et on a en face 4 enforceurs pour compléter donc ce coureur qui vont être, eux, armés pour protéger le coureur. Ils ne peuvent pas ramasser justement cette balle, mais peuvent shooter dedans avec leurs armes si jamais ils veulent. Et on peut avoir, dans ces 4 enforceurs, une quête, donc un joueur de chaîne au maximum qui va servir de soutien et d'attaque. Pour compléter ces équipes de 5 joueurs, on peut aussi avoir jusqu'à 3 remplaçants maximum. Si je vous décris un petit peu plus la durée d'un match, on va avoir ce qui s'appelle des coups de tambour toutes les 1,5 secondes, et ça va s'appeler des stones. Et donc les matchs, traditionnellement, se jouent soit en 200 stones, c'est-à-dire en 5 minutes, ou en 80 stones, c'est-à-dire 2 minutes. Alors, comme je vous disais, le but du jeu du coureur étant de récupérer la balle au centre et de l'emmener de l'autre côté. Et à quoi ça sert que les équipes soient armées ? Et bien tout simplement, les équipes peuvent aller attaquer les adverses à un contre un, en 2 contre 1, en 3 contre 1, même en 4 contre 1 si on veut. Il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Cependant, si un coup valide est porté, c'est-à-dire un coup hors tête et hors main pour les enforceurs qui ne sont pas armés d'une chaîne, on va pouvoir les immobiliser. Si justement c'est avec un pompe-fen, donc c'est-à-dire hors chaîne, ça va être 5 stones de pénalité immobilisée, c'est-à-dire un genou à terre, et donc ça équivaut à 7,5 secondes de pause. Mais par contre, si justement c'est un joueur avec une chaîne, on va avoir 8 stones d'immobilisation, et donc ça équivaut à 12 secondes de pause. Voilà, j'ai pas forcément plus
pas de petite phrase de conclusion de fin. Est-ce que tu peux nous rappeler juste comment ça s'appelle ?
Alors oui, j'ai pas forcément précisé le nom, c'est le Jugger, donc J-U-G-G-E-R.
Et on peut trouver des vidéos sur YouTube ?
Oui, on trouve des vidéos, il y a même des compétitions internationales entre les pays, justement.
Ok, ça marche.
Alors, là, je vous ai en plus parlé surtout des règles allemandes, qui sont les plus connues et qui sont un peu les originelles. Il faut savoir que ça s'est développé très vite après aux États-Unis et en Australie, parce que de base, le film est australo-américain.
Eh bien, merci beaucoup, Baptiste. On va passer tout de suite, sans plus attendre, à la chronique de Clémentine.
Bah écoute, salut Charlie.
Salut Clem. Tu me parles de quoi aujourd'hui ?
Et bah ce soir, j'ai décidé de vous parler d'Edouard aux mains d'argent, qui est un film sorti en 1991 en France et réalisé par Tim Burton. Mais alors pourquoi je souhaite vous parler de ce film ? Eh bien tout simplement, car c'est l'un de mes films préférés et qu'il m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas pourquoi, mais ce qui me marque le plus après avoir regardé un film, ce sont les couleurs, les décors. Le synopsis est le suivant. Un inventeur a créé un personnage qui a un cœur pour aimer, un cerveau pour penser, pour comprendre, mais qui a des lames en guise de main. À raison que son créateur est décédé avant d'avoir pu lui greffer des mains humaines. Édouard aux mains d'argent vit au sommet d'une colline dans un château qui surplombe un petit village. Un jour, une dame est allée à sa rencontre et l'a adoptée dans son foyer pour lui faire découvrir les joies de son quotidien. Ce qui m'a marqué dans ce film, ce sont donc bien évidemment l'histoire, mais aussi les couleurs. C'est un film assez ancien, mais j'ai trouvé le jeu des couleurs si puissant. Le château, en retrait sur le sommet de la colline, était très obscur. Édouard aux mains d'argent était très pâle, son costume était très sombre, comme pour illustrer sa tristesse de vivre seul. Tandis que le village était très très coloré. Les maisons étaient roses, bleues, vertes, jaunes. Les costumes des habitants étaient eux aussi très colorés et dans les mêmes teintes, comme pour illustrer la joie qui régnait au sein du petit village. J'ai adoré ce jeu de couleurs qui, pour moi, illustre à merveille les sentiments des protagonistes. Le jeu des acteurs est essentiel pour transmettre les émotions. Mais je trouve personnellement que lorsque les émotions sont transmises en plus par les couleurs et les décors du film, elles ne sont que plus fortes. Et vous pourrez d'ailleurs observer le teint d'Édouard aux mains d'argent, qui au fil de l'histoire devient de plus en plus rayonnant à raison qu'il commence à sourire, à être heureux. Mais ce jeu de couleurs est aussi utilisé à travers l'affiche du film. Si on analyse celle d'Édouard aux mains d'argent, on peut observer un personnage habillé tout en noir, avec une forme de combinaison qui semble être faite de métal et qui paraît donc être en continuité avec ses mains. Son visage, quant à lui, très pâle sur l'affiche, peut à la fois transmettre de la tristesse, mais également de la gentillesse, car le blanc est signe de joie et de pureté, tandis que le noir est souvent signe de malheur. On peut donc en déduire, avec l'affiche du film, que Édouard aux mains d'argent est un homme gentil, plein de bienveillance, mais semblant condamné au malheur en haut de sa colline, seul et à l'écart du reste du monde. Ce mélange de blanc et de noir n'est-il finalement pas une métaphore illustrant la maxime qu'il ne faut pas se fier aux apparences ? C'est ce que vous allez découvrir en regardant ce film qui d'ailleurs ne dure qu'une heure 40. Et ça, c'est un grand atout quand on sait qu'aujourd'hui, la durée des films dépasse facilement les 2h voire 2h30. Alors préparez vos pop-corns car Édouard aux mains d'argent, c'est 1h40 d'immersion dans un monde fantastique et plein de surprises. Alors ne perdez pas de temps et regardez-le. Il est disponible sur Disney+, Canal VOD, mais aussi sur Prime. Bonne soirée film et encore bonne continuation Charlie.
Eh bien merci Clémentine, effectivement, c'est vraiment le film de Tim Burton.
Mais merci à toi Charlie.
Alors on va passer maintenant à Julie, si tu veux bien.
Allez, alors je vais juste... Ouais. Donc moi, déjà ravie Charlie, vraiment. Je suis heureuse de vous parler ce soir d'un livre qui m'a beaucoup touchée, je le montre un peu à toute l'équipe. Qui fait joliment le pont aussi avec la chronique Sophro, que j'ai vraiment pris plaisir à animer ces derniers mois donc dans l'émission de Charlie. Il s'agit de La Toute Petite Reine, aux éditions J'ai lu, en tout cas en format poche. Ce livre, il est vraiment plein de tendresse et il est écrit par une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Agnès Le Dig. Donc, ces livres sont assurément tendres, poétiques, humanistes et aussi avec une plume écologique dans le sens prendre soin du vivant. Et tout cela, eh ben, personnellement, ça me plaît. Alors pour ce livre, La Toute Petite Reine, il est question de destin cabossé par la vie et de chemin de pacification, voire même de retour au sourire, à l'amour, à la paix du cœur et à ce qui fait sens. Donc ce chemin, pour Capucine et Adrien, sera assez long, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent au hasard, ou pas, de la vie, comme si leurs deux destins brisés se faisaient miroir ou écho. Les deux vont d'ailleurs se comprendre par leur vulnérabilité, leur sensibilité et aussi leur maladresse. J'aime ce livre parce que je suis toujours touchée finalement quand les héros sont des personnes délicates, vulnérables et si fortes à la fois. Des destins cabossés qui montrent des êtres tendres, bienveillants. Et leur blessure devient vraiment une force. Alors rien de niais ni de gnangnan, je vous assure. Au contraire, le beau et la force sont vraiment vus d'un autre regard. Celui de la sensibilité. D'ailleurs, Adrien, qui est donc le deuxième personnage phare du livre, est accompagné de son chien, Bloom, puisqu'il est maître chien spécialiste de déminage. Et celui-ci, donc Bloom, est vraiment d'une extrême finesse et aussi d'une extrême compréhension des émotions des humains. C'est très tendre, vous allez voir. Ce que j'ai aimé aussi, et pour le coup en tant que sophrologue, c'est le parallèle qui est donné avec les thérapeutes de Capucine et Adrien. Chacun dans son histoire est accompagné par un et une psychologue. Et l'on voit chapitre après chapitre, le chemin parcouru, les blessures attendries, transformées, voire apaisées. Voilà, donc d'autres personnages entrent en scène, dont ces deux psychologues qui, vous verrez, sont très chouettes. Voilà, pour terminer, c'est très touchant, tendre, humaniste, je pense que vous l'aurez compris, c'est aussi plein d'espoir. Je trouve que c'est un livre dont le monde a bien besoin pour amener de la tendresse et aussi de la confiance finalement dans nos chemins parfois cabossés d'humains. Voilà, merci à toi
beaucoup,
Charlie,
Julie.
En tout cas.
Et merci pour toutes les chroniques sophro que tu as offertes à l'Amphi cette année. J'en profite parce que j'ai oublié de le faire d'ailleurs, mais Clémentine, merci à toi pour tes chroniques voyage. C'était super intéressant de nous avoir parlé de ça, c'était toujours incroyable de suivre tes aventures à travers tes chroniques.
Non, mais c'était avec plaisir, Charlie.
Et donc un troisième chroniqueur que je remercie et qui est au micro, c'est Merlin pour ses chroniques d'abord sur le sport.
Je l'ai pas fait beaucoup. On m'a fait comprendre que c'était nul, alors j'ai arrêté.
Oh, mais non, c'était pas nul. Bon, ça a quand même duré 3 mois, un truc comme ça.
Ouais, je pense que j'en ai dû en faire 6-7, les chroniques sur le sport.
Et après, t'as viré sur les chroniques cuisine, où tu nous préparais des fois les plats dont tu parlais dans tes chroniques, qu'on dégustait en studio. Donc merci beaucoup pour tout cet investissement aussi.
Mais de rien, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci.
Bah, ça nous a fait plaisir à nous aussi. Et on écoute à présent ta chronique, et juste après, on partira sur une petite pause musicale.
Et ben du coup, aujourd'hui, moi, je vais pas vous parler de recettes, mais bien évidemment du meilleur jeu du monde. Et pour ça, je crois que, pour une fois, pardon, je crois que je suis objectif, car pas mal de gens pensent ça. Donc je vais parler de Red Dead Redemption 2. En français, la vengeance ou le rachat de la mort rouge 2, ça claque moins quand même. Donc Red Dead 2 est sorti et développé par Rockstar Games, une petite firme qui a sorti des jeux pas très connus, comme GTA V. Je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Wow.
Donc c'est sorti le 26 octobre 2018 pour PS4, et un an plus tard pour les autres consoles, hormis la Nintendo Switch. Ce jeu est d'ailleurs considéré pour l'instant du jeu le plus cher de l'histoire. En effet, sa production, développement et marketing aurait coûté la coquette somme de 800 millions d'euros. Mais remboursé facilement par ses 60 millions de copies vendues à 70€ pour la classique et 100€ pour l'édition collector. Donc Red Dead 2 est un jeu se déroulant dans un contexte de fin de l'Ouest sauvage en 1899 aux États-Unis. Nous incarnons Arthur Morgan, qui fait partie de la bande des hors-la-loi des Von der Land. Et comme dit si bien dans l'intro, en 1899, l'âge d'or des hors-la-loi et des as de la gâchette touchait à sa fin. L'Amérique devenait un pays régi par les lois, même l'Ouest avait été dompté. Quelques bandes arpentaient encore ces terres, mais elles avaient été traquées et détruites. Ça pose bien le contexte. À la suite d'un braquage ayant mal tourné, dans la ville de Blackwater, nos héros vont être pourchassés par les agents fédéraux et des chasseurs de primes. Prenant la fuite vers l'est, le groupe continue à faire des crimes et en plus de ça, des disputes internes éclatent et menacent de détruire la bande. Notre héros, Arthur Morgan, est lui tiraillé entre ses propres idéaux et sa loyauté envers la bande qu'il a élevée. Dans ce jeu, vous allez devoir faire des dilemmes complexes à une flopée de personnages attachants, mais plus attachants les uns que les autres, et surtout à des graphismes exceptionnels, et à un très vaste monde ouvert. Mais surtout à une histoire magnifique, et un scénario exceptionnel. Je vous dis rien, car c'est du spoil, et le spoil c'est pas cool, mais la fin est incroyable. Bref, Red Dead Redemption 2 est la suite de Red Dead Redemption, dont les événements se passent 12 ans plus tard, en 1911, donc Red Dead 2 est un préquel de Red Dead 1, qui est lui-même la suite moins directe de Red Dead Revolver. On s'y perd. Donc moi j'ai acheté ce jeu en octobre 2022, un peu après la bataille tout de même, mais il m'a marqué profondément, et tellement marqué que je l'ai refait, et donc fini, 3 fois. C'est le premier jeu auquel j'ai joué qui m'a procuré une sensation comme ça. Car même fini, il y a plein de choses à faire. Il y a des événements aléatoires qui surgissent un peu partout sur la map, qui vont nous faire plus ou moins peur, car je pense pouvoir le dire, que vous allez devoir aider des passants à aller chez le médecin car il a la jambe arrachée. Vous aurez parfois même affaire à des voleurs de chevaux. Bref, Red Dead Redemption 2 offre une expérience de jeu incroyable, très immersive. Donc si vous n'y avez pas joué, je vous invite sérieusement à l'acheter et à y jouer, rassurez-vous. Il ne coûte plus 70€, vous le trouvez à 15€ ou 20€ d'occasion. Et point commun avec D, il y a 2 disques dedans.
Ah. Merci. Ah, non, t'avais
donc
pas fini.
Moi j'ai fini.
D'accord.
Merci pour tout, Charlie. Pardon, j'ai coupé la parole. C'est pas très poli, mais merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi encore, Merlin. Et du coup, on va faire une petite pause pendant laquelle on va écouter le thème de ce classique du jeu vidéo. Et pendant qu'on fait cette pause, vous pouvez gagner des places pour les cinéastes, mais aussi pour Mesparo et Inège le 16 mai au Saunière, en appelant au 02 43 24 37 37. Voilà, cette fois, j'ai pas oublié le numéro. De retour dans l'amphi pour la suite et fin de cette ultime et dernière émission où avec toute une équipe de chroniqueurs et d'invités, on vous partage plein de références culturelles. Et on continue à présent avec Geoffrey. Salut Geoffrey.
Salut.
Alors de quoi tu viens nous parler ?
Alors pour cette dernière de l'amphi qui correspond assez bien avec le retour des beaux jours, je suis venu parler de voyage à vélo. Okay. J'ai un peu filouté, j'ai inscrit ça dans ma tête comme sport.
Ok, ça
J'espère
marche.
J'espère que ça passe.
Oui, ça passe tout à fait, vas-y, parle-nous-en.
J'en profite pour vous motiver tous et toutes à aller prendre un vélo, même si c'est un vieux, et tenter de voyager un peu à vélo. J'ai découvert ça l'année dernière, je m'ennuyais fortement, c'était les vacances d'été, j'avais pas de travail, personne dans ma vie, j'avais pas mon année, j'étais déprimé. Et je suis allé au cinéma, comme souvent quand je suis déprimé, au cinéaste. Et là, j'ai fait la rencontre d'un groupe incroyable. Ça s'appelle le CBB, le Cargo Bike Band. C'est un groupe de musiciens de jazz qui voyagent exclusivement en vélo cargo. Donc, ils ont plusieurs vélos électriques, dont l'un est adapté en batterie modulable, un qui sert à transporter la nourriture, un les instruments, etc., etc. Et ils m'ont proposé d'aller les accompagner dans leur tournée en Suisse.
Ok.
Bon, j'avais un peu peur, je n'avais jamais fait ça auparavant. Je fais déjà régulièrement du vélo et je suis bénévole à Cyclamen, qui est l'atelier d'autoréparation du Mans. Mais ça n'a rien à voir avec partir pour 20 jours dans un pays étranger, avec des étrangers en vélo. Pour m'entraîner, pour m'échauffer, je suis parti du Mans à Paris. Ça fait à peu près 200 km, ce qui est une distance tout à fait raisonnable en vélo, pour m'échauffer.
Ok. C'est pas mal, effectivement. Tu t'en es sorti comment ?
C'était absolument incroyable. C'était vraiment... Déjà, c'est très facile. Il faut savoir, Paris-Le Mans, c'est plat. Donc, aucune difficulté niveau sportif. Et puis même, je suis vraiment parti en vadrouille. J'avais pas prévu d'endroit où dormir, ni rien. Et le soir, quand je commençais à être un peu fatigué, j'allais toquer chez les gens pour savoir où crêcher.
Ça marche.
Et il faut savoir que... les gens qui voyagent et surtout qui voyagent à vélo sont très appréciés et ont énormément de sympathie aux yeux des gens.
Okay.
Donc je n'ai trouvé absolument aucun mal, enfin je n'ai eu aucun mal à trouver des endroits où dormir à droite à gauche. On m'accueillait souvent avec le plaisir, avec un sourire, ne serait-ce que pour remplir ma gourde d'eau.
Et du coup, tu as pu partir en Suisse ou tu ne l'as pas encore fait ?
Ça, c'était mon échauffement.
D'accord.
Et comme ça s'est absolument bien déroulé, je me suis chauffé, je suis parti en Suisse.
Waouh.
Alors, deuxième point technique, pour aller à un autre endroit, et si on ne veut pas y aller en vélo, on peut prendre le train. Tous les TER, on peut mettre son vélo dedans assez facilement. Mmh. Et du coup, j'ai pris le TER frontalier à la Suisse et j'ai terminé mon voyage comme ça. Je suis venu vous motiver parce que vraiment, il ne faut pas grand-chose. J'ai un vieux vélo de course, très ancien, que j'ai un peu bricolé. Il suffit juste de mettre un porte-bagages dessus, prendre deux petites sacoches, et encore, c'est pas nécessaire, pour partir ne serait-ce qu'une journée ou deux pour faire du camping. Très peu d'outils sont nécessaires, également très peu de connaissances techniques. Franchement, si vous savez changer une roue, cela suffit amplement.
Eh bien, merci beaucoup, Geoffrey. Non, t'avais pas fini, pardon.
Même pour l'étranger, avec un vélo et un passeport français, c'est quand même très facile et accessible à tout le monde.
Ça marche. Eh bien, merci beaucoup pour ce petit conseil de voyage. C'est noté. Alors moi, ça fait une éternité que je ne suis pas monté sur un vélo, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à me motiver. Et donc, on passe à nos derniers chroniqueurs de cette émission. Léo et Nolwenn, qui mouraient d'envie de venir faire une chronique que je n'ai pas du tout forcée.
Oui, alors bon, pas trop préparé, mais c'est le cœur qui va parler. Donc moi, je vais vous parler de la série Outlander, donc que j'ai découverte pour la première fois lors du confinement. Voilà. Et alors au début, les deux premiers épisodes, j'étais pas forcément emballée, et après, c'est devenu un des piliers de ma vie.
La cinquième roue du carrosse.
Et donc actuellement, je la regarde voilà une seconde fois avec mon tendre et cher compagnon. Qui pourra dire un mot d'ailleurs, parce qu'il a été agréablement surpris aussi, je pense. Voilà, il s'attendait à quelque chose de gnangnan et pas du tout. Donc en fait, Outlander, c'est l'histoire d'une jeune femme au début, infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui retrouve donc son mari, qui était soldat. Ils partent faire un voyage en Écosse, et en fait, elle se trouve attrapée par la force des pierres et elle est transportée au XVIIIe siècle. Donc c'est une histoire de voyage dans le temps et en fait elle va se retrouver voilà en Écosse au XVIIIe, prise voilà dans une atmosphère de révolte et elle va se retrouver voilà contrainte à épouser un Highlander.
Un Highlander.
Et au-delà de l'histoire qui moi me fascine voilà par l'amour, par la complexité des personnages, par cette question du voyage dans le temps et de la dimension historique aussi qui est très très importante, c'est la qualité cinématographique, voilà tout ce qui est voilà les décors, on passe des paysages écossais à la France, à l'Amérique voilà à l'époque coloniale avec des allers-retours comme ça entre le 20e et le 18e, également les costumes aussi qui sont vraiment très travaillés et je ne m'en lasse pas. Et on suit les personnages comme ça sur cette saison, donc là ils sont en train de préparer la 8e et sur une trentaine d'années.
Ça ne s'arrête jamais.
Non, mais ça va, 8 pour une série, on a connu pire, hein, Grey's Anatomy.
Alors, Lost.
Oui, Lost, c'est vrai, oui, Walking Dead, etc.
Léo, toi-même, tu as été agréablement surpris.
Oui,
alors Léo, oui.
Je peux le dire, c'est pas si chiant que ça en a l'air.
D'accord.
Ah bah super.
Et Léo, est-ce que tu voulais nous parler d'un tout petit sujet, je te donne une minute, grand max.
D'accord, vite. Alors moi, plutôt qu'une chronique, c'était une petite chroniquette.
Ouais, une anecdote.
Je voulais parler d'anatomie, parce que l'anatomie c'est passionnant, c'est intéressant, ça parle du corps humain et... tout le monde a un corps humain.
Tout à fait. Plus que 30 secondes.
Jusqu'à preuve du contraire et merde. Alors, tu m'as mis la pression, Charlie.
Les doigts qui craquent.
Oui, c'était voilà, ça, le sujet. Merci. Je voulais parler des doigts qui craquent. Alors, comment ça se fait, les doigts qui craquent ? Eh bien, ça va venir des articulations et pas des os, contrairement à ce qu'on peut évidemment penser. L'articulation, elle a plusieurs éléments qui viennent la constituer, notamment une petite enveloppe qui va venir l'emballer joyeusement et créer un petit cercle hermétique comme ça. À l'intérieur de cette petite capsule, il va y avoir un cartilage et du liquide. Le cartilage, lui, va servir à... ça glisse bien, pour qu'on soit bien. Et le liquide, lui, il va lubrifier tout ça. Et ce liquide, c'est lui qui nous intéresse. Parce qu'il est riche en azote, en gaz. Et ce gaz, il est dissous à l'intérieur. Et lorsqu'on va venir créer un étirement sur l'articulation, comme quand on va venir bouger ses doigts, et ben ça va venir créer une décompression sur la capsule. Et quand on décomprime un liquide dans lequel il y a un gaz, et ben ce gaz, il va venir jaillir, il va venir sortir du liquide, ça va former une bulle, ça va faire clac.
Tu viens de traumatiser tous les auditeurs et auditrices qui ne supportent pas ce bruit.
J'en suis navré. Et c'est un phénomène qu'on voit dans la vie de tous les jours. Par exemple, lorsqu'on va ouvrir une bouteille de gazeuse, on ouvre le bouchon, on décomprime la bouteille, ça pétille.
Évidemment. Et je vais laisser le mot de la fin de cette émission à Jean-Yves Breteau, notre directeur d'antenne, qui voulait ajouter un petit mot de conclusion.
Bravo.
On t'écoute, Jean-Yves.
Ah, c'était court, effectivement.
Non, mais voilà, tu sais tout le bien qu'on pense de toi à Radio Alpa. Et voilà, tu as su mobiliser un certain nombre de chroniqueuses et de chroniqueurs cette année. Ce qu'on peut dire, c'est que tu as un talent fou. Tu es quelqu'un de très cultivé et que ça fait plaisir à entendre sur les ondes de Radio Alpa, parce que tu sais qu'on est un petit peu culture sur Radio Alpa. Moi, je suis complètement d'accord avec cet édito qui a été fait de toi par Corinne. Je pense que tu as véritablement un avenir très prometteur. Tu fais partie des révélations de Radio Alpa. Alors, je sais que c'est pas tout à fait la radio qui est pour toi ta destinée, mais c'est peut-être ton destin.
C'est peut-être mon destin plus que ma destinée.
Toi.
Et, à méditer.
Et je suis assuré que tu, avec ce que tu vas faire prochainement, donc la Skol Radio, qui a quand même révélé beaucoup de grands talents en radio, tu pourras combiner à la fois ta passion pour la littérature, parce que j'ai jamais vu quelqu'un dévorer autant de livres. Vraiment, j'en ai plein chez moi si tu veux. Voilà, en tout cas, on est très contents avec l'équipe de Radio Alpa, avec les bénévoles, de t'avoir connu d'abord, de t'avoir eu parmi nous. Continue à prendre soin de toi, parce que c'est important. Alors, on t'a connu quand même très timide en arrivant, très réservé, c'est ta nature. Et on a quand même commenté avec Romain, et Fred notamment, qui sont les collègues professionnels de la station, qu'on t'avait réveillé quelque part. Je ne sais pas si on s'est trompé, mais en tout cas...
Oh oui, bah, voilà. C'est ce qui arrive dans le service civique, j'ai compris.
Voilà. Et j'espère qu'en tout cas, puisque c'était un service civique, tu as pu t'épanouir dans ta mission. Et en tout cas, moi, en tant que responsable d'antenne, j'étais très heureux de la qualité du travail que tu as donné dans cette émission L'Amphi. Tu t'es donné à fond, t'es un gros bosseur. Enfin, voilà, tu fais partie des jeunes qu'on peut prendre, je dirais, en exemple, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui n'est pas facile pour les jeunes. Et j'espère que l'expérience en service civique que tu as vécue ici sera pour toi une expérience importante et qu'elle servira peut-être d'autres jeunes, puisque d'autres jeunes vont arriver pour prendre la suite de l'amphi la semaine prochaine. Donc, bravo.
Eh bien, merci
beaucoup.
Je le redis.
Merci, et surtout, Jean-Yves. Merci.
Merci à toi, merci à toute l'équipe.
Et on
n'a
pas parlé de tes talents de dessinateur.
Ça se voit moins à la radio,
ça
c'est
vrai. Ça se voit moins. Mais ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux découvriront peut-être.
Je vais appeler cette émission Charlie se fait saucer. Merci beaucoup, c'est la fin.
Tu peux revenir en bénévole.
Il y a aucun souci, mais bien sûr.
Charlie se fait saucer, il n'y a pas de problème.
Il faut vraiment que je finisse. Je suis désolé, mais là, c'est la fin de cette émission. Je remercie tous ceux et toutes celles qui auront apporté leur contribution. Merci beaucoup à vous tous. Et évidemment, merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés et pour certains d'entre vous d'avoir suivi l'amphi durant ces 8 mois. Ce fut une expérience formidable, entourée de personnes tout à fait exceptionnelles. Je remercie l'équipe de Radio Alpa, la MJC Prévert, les bénévoles, mes chroniqueurs pour leur assiduité, ainsi que tous mes invités de l'année pour avoir contribué eux aussi à faire de cette émission un rendez-vous quotidien. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.
C'était l'amphi. L'émission étudiante.